Le quart d'heure culturel, le podcast du magazine Diversion. En cette rentrée, on vous propose de plonger tête la première dans l'âge d'or, période mythique évoquée actuellement au musée Courbet. Place ensuite à la nouvelle programmation de l'Opéra de Dijon, que nous présentera Dominique Pitoiset. Avant de retrouver le festival Livre dans la boucle à Besançon et son agglomération, et on terminera en douceur avec la folk d'Amélie McCandless, croisée cet été au festival Kobold de Baume-les-Dames. Yeah. Je vous propose de retrouver Benjamin Foudral, directeur du musée et Paul Courbet à Ornans, qui nous présente l'exposition autour de l'âge d'or.
Cette nouvelle exposition présente plus de 60 œuvres d'artistes de la Renaissance jusqu'au tournant du XXe siècle, des chefs-d'œuvre absolus qui représentent ce mythe de l'âge d'or, un mythe qu'on a un peu oublié, qui est en fait un mythe raconté dès l'Antiquité, qui parle de cette humanité des origines, qui vivait dans une nature généreuse, abondante, paradisiaque, dans un monde d'harmonie, de paix et de justice. Et finalement, ce mythe de l'âge d'or va être réemployé, réinterprété à travers les âges pour justement questionner les sociétés contemporaines sur le rapport de l'homme à la nature, comment faire société, qu'est-ce qu'une société idéale, quel est notre rapport au monde, au travail et entre les êtres. C'est un mythe qui a aujourd'hui un peu perdu de sa substance. On parle de l'âge d'or de la porcelaine, de l'âge d'or du film hollywoodien, mais on ne sait plus en fait ce à quoi cette expression fait référence. Alors je me trouve à côté d'un tableau très important de cette exposition, inédit puisqu'il n'a pas plus été présenté en France depuis de très nombreuses décennies. C'est un tableau de Gustave Courbet, puisque Gustave Courbet fait aussi partie des peintres de l'âge d'or et des penseurs de l'âge d'or. Et ici, ce tableau justement permet de justifier sa présence. C'est le portrait de l'apôtre Jean Journet partant à la conquête de l'harmonie universelle. Tout un programme. On se trouve devant un portrait très caractéristique de l'art de Gustave Courbet, avec cette idée de l'homme qui marche qu'on retrouve dans son célèbre tableau La Rencontre, où l'artiste se présente déjà avec ce bâton de pèlerin, cette posture de l'homme qui marche, de l'homme qui va convaincre, qui va persuader, prêcher la bonne parole, artistique ou philosophique. C'est un motif vraiment caractéristique des œuvres de Gustave Courbet. Ce personnage un peu fantasque du 19e siècle était un pharmacien qui va quitter boulot, femme et enfant pour prendre son bâton de pèlerin et partir sur les routes de France pour promouvoir la pensée fouriériste et utopiste, pour promouvoir une nouvelle société et la possibilité d'une nouvelle société plus juste, plus égalitaire, plus harmonieuse. Il va rencontrer de nombreux intellectuels et artistes auxquels il va se lier, et notamment Gustave Courbet, puisque Courbet va être cet artiste très engagé socialement, et toute sa peinture finalement peut être lue aussi par ce prisme utopique et en tout cas social.
L'exposition L'âge d'or, paradis, utopie et rêve de bonheur, de Bruegel à Signac, se poursuit jusqu'au 1er octobre au musée Courbet d'Ornans. Le mois de septembre sera contrasté à l'Opéra de Dijon, avec des artistes aussi divers que l'Orchestre Dijon-Bourgogne, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, le violoniste mondialement connu Renaud Capuçon, ainsi que le Quatuor Zaïd, enfin le groupe ukrainien Dakabraka.
C'est ni une maison conventionnelle.
Dominique Pitoiset, directeur général artistique de l'Opéra de Dijon.
Ni une maison, je dirais presque inscrite dans une forme d'avant-garde esthétique. Nous tenons nos engagements initiaux, à savoir beaucoup d'éclectisme autour de notre convention de théâtre lyrique d'intérêt national, donc, dont la mission est l'opéra, les musiques symphoniques, les musiques baroques et le grand répertoire. Nous avons ouvert nos programmations à la danse, au nouveau cirque, aux musiques du monde, au jazz et à des présences d'artistes qui permettent des spectacles en direction des familles. Donc il y a à la fois les grands titres lyriques, cette saison Beethoven, Fidelio, un diptyque Puccini par exemple, Turandot, Tosca en partenariat avec l'Opéra du Rhin à Strasbourg, mais également beaucoup d'orchestres symphoniques nationaux et de référence. Nous profitons également des tournées internationales de quelques grandes phalanges. Et puis des artistes remarquables, des figures importantes, William Christie avec les Arts florissants par exemple, qui viendra ici, mais pas seulement des grands anciens comme la pianiste Leonskaya, merveilleuse interprète russe exilée à Vienne depuis nombreuses années, qui est une grande référence. Nous sentons qu'il y a un mouvement et un foisonnement générationnel dont nous devons nous emparer, qui viennent compléter des présences irradiantes comme celle de Leonardo Garcia Alarcón ou comme celle de notre chef associé Deborah Wallman qui sera à la baguette pour Puccini. Et nos partenariats avec l'Orchestre Dijon-Bourgogne renouvelés, la présence de l'Orchestre Victor Hugo au niveau régional, c'est important.
Ce week-end, place au festival Livre dans la boucle qui se tiendra à Besançon et dans son agglomération.
Eh bien, nous préparons la 8e édition de Livre dans la boucle qui aura lieu du 15 au 17 septembre.
Christine Bresson, directrice de la communication de Grand Besançon Métropole.
Avec une grande librairie, Place de la Révolution, où on trouvera la littérature générale, la littérature étrangère et la littérature en région. Et puis la littérature jeunesse au Musée des Beaux-Arts et la BD au Cénacle, rue de la Vieille Monnaie. Alors, l'édition 2022 avait été particulièrement importante. C'est un record en termes de fréquentation, 32 000 visiteurs, 7 000 participants aux rencontres, plus de 13 000 livres vendus par les libraires. Donc c'est effectivement une édition très très importante. On espère cette année faire aussi bien. Les rencontres se passent dans pas mal de lieux de la ville, mais aussi dans les médiathèques. On a 14 médiathèques qui vont recevoir un auteur donc dans toute l'agglomération. Et puis sur les lieux de la ville, alors on a les lieux habituels, hein, l'auditorium du conservatoire, le cinéma, Mégarama, le Cénacle, la Maison Victor Hugo, mais la Comédie de Besançon, petite salle qui se trouve à proximité de la Maison Victor Hugo, va donc accueillir aussi des rencontres cette année. Alors le président de cette nouvelle édition sera Dany Laferrière. Dany Laferrière qui est académicien, il est inscrit à l'Académie française depuis 2013, Prix Médicis 2009. C'est un auteur haïtien qui a dû s'exiler et qui vit aujourd'hui au Canada et dont l'œuvre résonne vraiment avec son parcours, l'exil, l'identité. Et il a publié un roman cette année en janvier sur le racisme, donc c'est son premier roman sur le racisme aux États-Unis particulièrement. Cette année, nous ferons un focus sur les lettres catalanes en partenariat avec l'Institut Ramon Llull. Et nous aurons des auteurs de littérature générale qui seront présents à l'édition, ainsi qu'une autrice BD et un duo autrice et illustrateur en jeunesse. Alors, les soirées sont sur réservation possible, mais pas obligatoires. On les sont conseillées parce qu'il y a des rencontres qui sont excessivement demandées. Donc sur le site internet livredanslaboucle.fr, les réservations seront possibles à partir de fin août, quand elles seront toutes confirmées. On conseille effectivement les réservations pour plus de sécurité. Néanmoins, on peut aussi se présenter à une rencontre s'il reste des places et entrer et participer à la rencontre.
La chanteuse Amélie McCandless nous vient de Reims, mais sa folk boisée évoque davantage les grands espaces américains, d'autant que son prochain album Apparaître en 2024 s'inspire de la vie de Chicago May, irlandaise devenue une célèbre criminelle aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Diversion a rencontré l'artiste lors de son passage en juillet dernier au festival Kobold de Baume-les-Dames. Elle nous parle de cet album à venir, de ses influences, pas toujours là où on les attend, et de l'évolution de sa musique.
Moi, je suis venue à la musique plutôt par la danse, pour commencer. Je fais beaucoup de danse enfant et j'ai aussi fait de la danse hip-hop. C'est quelque chose que j'aimais bien, j'aimais beaucoup l'énergie. Et après, en gardant la même énergie, on va dire, je suis arrivée vers des choses plus dynamiques comme le rock, etc. Style dans lequel on a plus de mal à m'imaginer aujourd'hui. Ce deuxième album, il est enregistré. Il a été enregistré au mois de mars à Paris. Et là, il reste une étape, il reste juste le mastering à faire. donc il est presque prêt. Et c'est un album concept en fait, c'est-à-dire que ça raconte une histoire du début à la fin. Et là, j'ai rencontré pendant le premier confinement l'histoire d'une Irlandaise et qui s'appelle Chicago May, enfin c'est son surnom, et qui a vécu fin 19e, début 20e siècle, et qui a été gangster, arnaqueuse, prostituée, meneuse de revue, qui a énormément voyagé. Et pour son époque, c'est un destin un peu hors du commun. D'écrire tout un album qui raconte un petit peu sa vie, et c'était plus facile pour moi, je suis passée sur le français pour la première fois, et c'était plus facile entre guillemets de raconter un peu la vie et les sentiments de quelqu'un d'autre en français pour commencer, donc elle m'a aidée aussi à ce niveau-là. Le premier disque, on est sur quelque chose d'assez pop-folk, et là pour cet album, je suis vraiment revenue aux sources. J'ai fait quelque chose de très dépouillé, très épuré, volontairement. Donc ce soir, ouais, on est en trio, donc violon, contrebasse et moi la guitare ou banjo. Et sinon, oui, je peux avoir plusieurs configurations, c'est-à-dire que je vais faire aussi beaucoup de concerts toute seule, en duo aussi. La nature, elle est très présente dans mes vidéos et notamment dans les premières choses que j'ai pu faire. Déjà, ça permet de se ressourcer aussi soi-même quand ça va pas trop ou quand ça va vraiment pas du tout. C'est vraiment genre la forêt, j'adore aller en forêt. Moi, j'y vois plein de choses en fait. On peut imaginer plein de choses, même les danseurs peuvent s'inspirer par exemple de feuilles qui volent, des choses comme ça. Et je vis à la campagne, donc j'ai l'habitude quand je fais des trajets en voiture, que je rentre chez moi, de croiser des biches, des blaireaux, des ratons laveurs, des renards et j'adore les croiser parce que je roule toujours pas très vite. Je rêve de dormir de la douceur, le drap de soie. Je rêve de dormir, le sol brille, ses yeux ardents. Je rêve.
Le quart d'heure culturel, un podcast du magazine Diversion.
Je rêve de m'enfuir.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve mi-septembre pour la suite de nos explorations culturelles.